Et vous écoutez France Culture. L'au-delà du mal ne s'atteint pas. Joris Carluismans. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui se penchera ce soir sur l'abîme ardent et magmatique du mal et inspectera l'établi d'un de ses artistes les plus industrieux, le Jack de Lars von Trier, dont la saga vient de sortir en Blu-ray aux éditions Potemkin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre DVD ce soir et pour un seul et unique film, ou deux films pour être très exact, en tout cas l'essentiel de l'émission sera consacré donc à la sortie DVD Blu-ray de The House That Jack Built, je répète, de Lars von Trier pour en parler. Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Actualité de Philippe Rouillet.
Je voudrais signaler un film dont on ne parle pas là ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais qui va nous amener tout le mois de mars en salle, c'est La Flore, ce film de 14 heures.
La Flore.
La Flore, oui, qui est un film argentin, à voir en quatre séances. À voir en quatre séances, et l'idée, c'est la réponse du cinéma à la série. C'est-à-dire qu'en 14 heures, il y a six saisons, et un certain nombre d'histoires, et à chaque fois, ce sont les quatre mêmes comédiennes qui jouent des choses très différentes. Ça commence avec une histoire de momie, manière film B hollywoodien, et puis il y a un film musical, et puis après, il y a un thriller, un film d'espionnage extraordinaire de 5h30, qui est tourné aux quatre coins du monde, et puis un film de mise en abîme, et puis le cinquième épisode est un hommage à la partie de campagne de Jean Renoir sous forme d'un remake muet, et puis le sixième épisode est une sorte de coda.
Et tout ça sortons en salle, monobloc.
Tout ça sort en salle, et alors l'idée en quatre morceaux. De 4 morceaux en gros de 3h, 3h30, et donc ça a commencé mercredi, et ce sera tous les mercredis. Il y aura une nouvelle partie qui sort, et on pourra voir ainsi les 4 parties et ce total de 14h. Donc je le dis tout de suite parce qu'il faut quand même s'organiser pour voir ça. C'est très très excitant, très très intéressant, et c'est vraiment à voir en salle.
Et donc une histoire éclatée,
C'est 6 histoires.
6 histoires différentes. Voilà, ben on en parlera quand là, évidemment, la chose sortira en DVD et Blu-ray. Ah, mauvais genre, vous irez, pas comme tellement.
Ah, bah oui, ça donne très envie. Ou alors, sauf si j'ai trop de boulot, mais sinon, j'y vais. Vraiment avec joie.
Actualité de Paco Mpiano.
Au moment où je vous parle là, normalement je suis à Nantes pour donner une conférence sur David Bowie.
Très bien.
Donc c'est pas la peine que
je sois enregistré, comme vous le remarquez.
Non, mais pas la peine que je prévienne les gens dans la salle.
Pendant la conférence, dites qu'il faut écouter mauvais genre. Hein.
Voilà, exactement. Attention. Je ferai l'inverse.
Donnant. Gagnant.
Pareil. Mon expérience ubiquité. Et sinon, mardi prochain, à la boutique Potemkin, avec notre ami Stéphane Duménildo.
Qu'on salue.
Quasiment une espèce de membre exfiltré de mauvais genre.
Oui, un secret. Un honorable correspondant
de mauvais genre, Stéphane Duménildo. On va parler comme ce soir de The House That Jack Built de Lars von Trier.
Voilà. Absolument.
Parce que vous êtes tous les deux dans les suppléments, bonus du Blu-ray. Autant vendre la mèche tout de suite.
Supplémenter avec talent.
Pas de teaser.
Ce Blu-ray. Fausto Fazulo qui nous revient.
Bonsoir.
De loin.
Qui revient, qui repart, qui revient. Bah, quoi de neuf? Beaucoup de choses.
C'est une chanson populaire, c'est ça?
Ouais, c'est vrai. Mais je ne vais pas l'interpréter ce soir. Je pense que je suis un petit peu.
Fausto Song.
Quoi de neuf? Il y a un hors-série sur lequel on travaille actuellement, toute l'équipe de Man Movies. Un hors-série sur la saga Godzilla. Donc beaucoup, beaucoup de films. Et ça devrait sortir pour, très, très prochainement, pour la sortie du prochain Godzilla qui devrait avoir lieu fin mai. Voilà.
Ah, voilà, messieurs, d'ailleurs, on vous retrouvera les uns et les autres pour une évocation de Lovecraft bientôt.
Le 12.
Voilà.
Le 13.
Au mois
le
d'avril
13.
Et au mois
samedi 13.
Voilà, au mois d'avril pour évoquer Lovecraft avec Jean-Pierre Dionnet au cinéma et en bande dessinée. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
Alors ce soir, j'imagine que vous allez nous dérouiller les muscles.
Il s'agit de danser ce soir.
S'apprêter à faire des exercices chorégraphiques, mais pas n'importe lesquels.
Oui, on va aller du côté des danses, mais plutôt des danses macabres. Ma
première danse macabre, non, je m'en souviens pas. J'ai en fait découvert l'art macabre, pas seulement les danses, l'art macabre pendant mes études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et il y a un côté très spirituel, même très, très philosophique dans l'art macabre. Tous les thèmes n'ont pas la même leçon à l'intention de celui qui regarde ou de celui qui lit. Et il y a un côté, je dirais, ça va être très anachronique, mais il y a un côté presque romantique dans l'art macabre. Et j'ai un côté, moi, très 19e, donc je pense que c'est ça.
Ça vous arrive d'en rêver, vous, des danses macabres ?
Non, curieusement, j'en rêve pas. Ça m'obsède pendant la journée, mais pendant la nuit, j'ai la paix. Je crois que c'est parce que j'arrive... à satisfaire toutes ces pulsions-là la journée en me penchant sur ses œuvres, et du coup la nuit tout va bien. Je suis pas visitée par des squelettes, personne ne veut m'emmener, donc ça, je passe des nuits relativement sereines.
Fanny Eggers est historienne de l'art, mais aussi membre de l'Association des danses macabres d'Europe. Une association qui réunit des férus de danses macabres, chercheurs, universitaires ou amateurs. Tous ont en commun une passion viscérale pour l'art macabre en général et pour ses danses en particulier. Des danses qui sont apparues à la fin du Moyen-Âge sur différents types de supports, même si on garde en tête les fresques que l'on trouvait sur les murs des églises ou des cimetières, comme celle par exemple qui était peinte sur le cimetière des Saints-Innocents à Paris. Plus qu'une danse, il s'agissait d'une sorte de cavalcade représentant des squelettes et des vivants, des plus puissants aux plus miséreux, unis par un seul et unique destin, la mort. Fanny Eggers revient donc sur l'une de ses danses, celle de Niklaus Manuel à Berne, soit 80 mètres de fresques peintes sur le mur d'un cimetière, fresque aujourd'hui disparue, mais parvenue jusqu'à nous sous forme d'aquarelle.
Comme toutes les danses, on commence par les personnages les plus importants dans la hiérarchie médiévale. Et puis, plus on défile, plus on arrive vers des personnages plus simples. Et un des personnages que je trouve très touchant, puis que j'ai étudié un peu par la suite, c'est le personnage de la jeune fille. Aux joues très roses, signe de sa jeunesse, de sa vigueur, de sa fraîcheur, et qui est habillée d'une longue robe jaune qui est maintenue sur les bras et au corsage et à la ceinture par un très long ruban rouge selon la mode de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette jeune femme est saisie littéralement par un squelette qui ne se moque pas d'elle, qui ne l'attire pas par la robe, qui n'essaie pas de la pousser dans un trou, qui ne la violente pas trop, mais la violence ici est... est un peu vicieuse, quoi. Il la violente pas, c'est-à-dire qu'il ne l'agresse pas, il ne la frappe pas, il la pousse pas, mais il la saisit dans le dos. Il approche sa tête et sa bouche, en tout cas sa mandibule, du visage de la jeune fille, et puis il plonge littéralement les mains dans son corsage. Voilà. Il en profite vraiment pour la tripoter, là, c'est très net. Et la jeune fille ne se débat pas vraiment, si ce n'est qu'elle esquisse un geste avec les mains jointes. Elle est plus dans une attitude de regret, elle ne se débat pas vraiment. Donc le squelette a le dessus sur elle, et puis il en profite pour se moquer un peu, c'est-à-dire que, en fait, en plongeant ses mains dans son corsage, il lui fait comprendre que tout ça, tous ces beaux attributs, toute cette fraîcheur-là, cette vigueur, cette jeunesse, tout ce qui fait ses attraits, sera destiné à partir en pourriture. On sent bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu sous le pinceau de Niklaus Manuel, quelque chose d'un petit peu érotique. Hein. D'ailleurs, la jeune fille et la mort, ça peut être un thème qui est érotisé durant la Renaissance, hein, très très largement. Et là, c'est un petit peu esquissé. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment qu'il presse dans ses mains ses attributs pour lui montrer que tout ça, tout ce qui peut faire sa fierté et éventuellement intéresser son jeune amant, c'est sa poitrine, une très jolie poitrine d'ailleurs, avec une très jolie taille, très, très marquée. Tout ce qu'il dit dans le texte, hein, tout ne sera plus qu'en grès pourri. Voilà. Le texte a une grande importance aussi chez Niklaus Manuel, parce que ce sont c'est un texte qui est très étudié, qui est plein d'humour, mais en même temps qui est très dur. Donc il y a, ça peut être quand même très acerbe. Alors que dans les danses, comme chez Holbein, par exemple, qui est une danse avec des xylographies, donc des impressions à partir de planches de bois gravées, on a des textes qui sont plutôt tirés de la Bible, donc un peu moins inventifs.
Lisez le texte pour la jeune fille.
Oui. Alors la mort s'adresse à la jeune fille. « Jeune fille, ton heure est déjà venue, tes lèvres rouges vont blêmir, ton corps, ton visage, tes cheveux, tes seins, tout ne sera plus qu'engrais pourri. » Et la jeune fille lui répond « Ô mort, tu me violentes horriblement, mon cœur va se briser dans mon corps, je m'étais promise à un jeune homme et c'est la mort qui vient m'enlever. »
Si vous aussi vous êtes fan d'art macabre ou si vous souhaitez le devenir, prenez contact avec l'Association des danses macabres d'Europe qui organise son 18e congrès, donc cette année à Paris, du 19 au 23 mars. Vaste et passionnant programme de conférences, l'accès est gratuit mais sur inscription. Et notez par ailleurs qu'en parallèle au congrès se tiendront à Paris deux expositions, Le Livre et la Mort à la bibliothèque Mazarine et Memento Mori, Vanité et Art macabre contemporain. Alors ça, ce sera à la galerie Jour et nuit et du 18 au 24 mars. Et pour plus d'informations, rendez-vous évidemment sur la page internet du site de Mauvais Genre.
Merci Céline, mais alors cette association d'amateurs de danse macabre, est-ce qu'ils dansent ou est-ce qu'ils scrutent les documents?
Peut-être qu'ils devraient vous inviter pour justement organiser une grande danse macabre autour de François Angelier.
Voilà.
À mon avis,
ça vaudrait... Je mènerai le bal un peu comme quelque chose
de
Bergmanien.
Ce sera pour le 19e congrès.
Le 19e congrès, mais le 20e congrès, comme chacun sait, c'est toujours des congrès importants. Donc on va attendre un peu. Non, mais Fausto Fazulo, vous avez déjà dansé avec la macabra.
Danse macabre, ça me fait penser à un titre de film de Ricardo Freda. Et puis après, plus globalement, La jeune fille et la mort, je pense à un film qui justement traite du romantisme avec un mort qui s'appelle Nécromantique, qui est un film allemand de Jörg Butgereit, qui est un film
zoophile, voilà,
nécrophile
pardon,
assez extrême, qui illustre pas trop mal ce qu'on a entendu jusqu'à présent.
Complètement.
Ah ben moi, quand on me parle de danse macabre, je pense à celle de Camille Saint-Saëns, rejouée par Secret Chief 3 dans tous leurs concerts. Là. Donc j'ai souvent dansé sur Danse macabre de Camille Saint-Saëns, jouée par Spruance et Secret Chief 3. Oui.
Ah, ça, il faut
donc
pas.
Vous serez aussi invité au 19e congrès
avec
François.
Joie. Ouais. Je viendrai déguisé en ours.
Camille Saint-Saëns et la danse macabre, c'est la règle du jeu. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit déguisé en ours.
Il y a un art du rebond dans cette émission.
C'est Jean Renoir. Et puis La jeune fille et la mort, c'est Agnès Varda, c'est Cléo de 5 à 7. Hein, avec cette obsession des cartes, des peintures. Et puis c'est le thème de Cléo qui attend le verdict de la science, si la mort va l'emporter, si le cancer, le crabe va l'emporter.
Eh bien écoutez, nous avons déjà des communications possibles pour les futurs congrès de l'Association des amateurs de danse macabre. En tout cas, nous serons attentifs.
Communication ou plus.
Voilà, ou plus. En tout cas, on sera attentifs aux publications donc, qui vont paraître.
Voilà, en tout cas qui paraîtront après, mais souvenez-vous bien, donc les dates, c'est du 19 au 23 pour assister au colloque qui est gratuit. Hein.
Oh,
donc
venez. Ah, la mort est généreuse. Autre date, mais samedi prochain, Céline ?
Oui, samedi prochain, juste pour vous annoncer le prochain documentaire que j'ai fait avec Laurent Polleret.
Avec Laurent Polleret ?
Oui, pour ne pas changer les équipes qui gagnent. Et donc c'est Une vie, une œuvre consacrée à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. Donc si vous voulez savoir comment et pourquoi Jean-Jacques Pauvert a décidé de publier ça alors que c'était un tout jeune homme de 19 ans, eh bien, il faudra écouter samedi prochain France Culture. Et puis aussi, Pauvert, enfin, je ne vais pas dire tout ce qu'il a publié parce qu'on y passerait une heure. Oui, enfin, c'est quand même celui qui a publié Histoire d'eau de Pauline Réage, Dominique Horry. Donc, tout ça, ce sera samedi prochain à 15h.
Merci Céline. Donc, eh bien, puisqu'on parlait de danse macabre, on va continuer à pénétrer dans l'univers nécromantique et nécrophilique, mais cette fois de Lars von Trier.
Excuse me, officer.
Yeah.
My friend is like totally weird, and he said he killed 60 people, or maybe even 61.
You've been drinking.
Yeah.
Then stop. Everything that this woman has said is true.
I have killed 60 people. 60 people! I'm a serial killer.
Please, help me.
I've also been a horrible human being to this woman right here. Miss Jacqueline. Screaming. I definitely think that you should.
Voilà deux extraits de The House at Jack Bill de Lars von Trier, mixé bien sûr avec le piano gouldien de Bach. Alors c'est un film effectivement qui une fois de plus nous interpelle énormément, comme tous les films de Lars von Trier, mais là d'une manière tout à fait particulière, puisque pas comptiellement, le questionnement qui est porté est celui sur le mal. Alors, comment aborder un film pareil? D'abord, peut-être, en tentant de le cartographier, puisque la structure en est complexe, et le propos également. Donc, faut éviter de prendre la mauvaise direction, et surtout...
Ah, Paco, mais attention,
bah, non, partir mais, dans le bon sens.
Je vois comment on regarde, ouais, fais gaffe, hein, Paco, hein, prends pas la mauvaise direction. Hein. On peut pas reprendre son chemin au bout d'un moment, c'est pas comme dans Stairway to Heaven. Oui. Bah, le truc, c'est que c'est le deuxième film que Lars von Trier fait avec cet esprit, ou je sais pas quoi, ce genre qu'il a énoncé à l'époque de Nymphomaniac, qui est le film dit digressif. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire un grand film digressif. Donc, il est chapitré et digressif, comme Nymphomaniac. Une base qui est un dialogue entre deux personnages. Ça aussi, c'est un point commun.
Presque.
Une confession, absolument. C'est proche des questions type confession du pécheur justifié ou des choses comme ça. Et à part ça, par contre, c'est un film en miroir ou à l'inverse. C'est-à-dire que c'est autant Nymphomaniac, en fait, fonctionner avec un personnage, le personnage de Joe, qui est estimé qu'il a été la plus mauvaise personne au monde. Face à un homme qui était joué, Joe, c'était joué par Charlotte Gainsbourg, et Seligman, face à elle, qui était joué par Stellan Skarsgård, qui lui essayait de lui convaincre du contraire. Là, on a l'inverse. Là, on a un homme, Jack, qui se sent pas du tout coupable de tous les crimes absolument épouvantables qu'il a commis, et qui est face à un homme, Virgil, joué par Bruno Ganz, qui lui a une autre idée sur son cas. Une toute autre idée. Et de la même façon que Nymphomaniac est divisé en chapitres, il est divisé celui-là en incidents. Mais les chapitres de Nymphomaniac, eux, étaient amenés de façon extrêmement élaborée, extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans un univers qui était la chambre de Seligman, dans lequel il y avait des objets, tableaux, taches sur le mur ou des choses comme ça, qui permettaient de créer en fait des amorces pour inventer un nouveau chapitre, avec ce nouveau chapitre, un nouveau style. Tandis que là, on est sur des incidents qui sont tous balancés assez brutalement à chaque fois. Premier incident, deuxième incident, troisième incident. Chapitrage extrêmement simple. Et l'autre élément qui les rapproche, qui est un élément, alors là, qui renvoie, on va dire, au pythagoricisme délirant ou pataphysique de Lars von Trier, qui est lié à des constructions de récits. Nymphomaniac se terminait sur 50 secondes de noir. Il y avait un dialogue sur 50 secondes de noir. Et il y avait, au milieu de Nymphomaniac, qui faisait 5 heures, 50 secondes de noir. On retrouve 50 secondes de noir au début du film. Et au milieu du film, le film faisant la moitié de Nymphomaniac, faisant 2h30, il se retrouve à 1h15 exactement, on a un dialogue sur 50 secondes de noir. Donc c'est des espèces d'éléments bizarres qui sont comme une ésotérie mathématique interne qui renvoie au côté le truc mathématique bullshit que Joe reprochait à Seligman dans Nymphomaniac, le côté bon Tu nous fais chier.
Philippe Rouillet.
Alors, ce qui est très intéressant, je suis évidemment d'accord avec mon camarade Paco, mais sur la construction, je dirais qu'il y a ce côté faussement négligé. C'est-à-dire que oui, c'est brutal, les cinq incidents, mais il nous dit que c'est cinq choisis au hasard dans sa carrière de parce que les incidents, en fait, sont des meurtres. Il dit que c'est cinq au hasard dans sa carrière de tueur en série. C'est pas du tout le hasard. Puisque le cinquième incident, bah, c'est la fin. Il n'y arrive d'ailleurs pas. Le premier, c'est le premier. Enfin, je veux dire, c'est à chaque fois emblématique. Et c'est la conversation, parce que le film, donc, est une conversation entre Jack et ce Verge, qui est joué par Bruno Ganz.
Avec
et
à l'arrière-plan l'idée de Dante aux enfers.
Voilà, mais qu'on va comprendre petit à petit. Parce que, et c'est là où je veux y revenir, c'est qu'en plus des cinq incidents, il y a un épilogue qui s'appelle la catabase, et qui en fait reprend tout le parcours, c'est-à-dire que on comprend que cet épilogue commence évidemment à la fin, c'est-à-dire quand Verge dit à Jack, bah maintenant c'est le moment d'aller aux enfers en quelque sorte. Donc et c'est là qu'on raccorde avec la conversation du début, c'est-à-dire que quand effectivement le film s'ouvre dans le noir et puis il y a cette voix off de Jack, donc bah Dylan qui dit est-ce qu'on va pouvoir parler, est-ce que et l'autre dit bah vous pouvez raconter ce que vous voulez, j'en ai déjà de toute façon tellement entendu que ça ne me dérange pas. Voilà, et on s'aperçoit que ça c'est le début de l'épilogue et puis il va y avoir des éléments comme ça de la voix off qui reviennent, qui vont nous permettre de structurer, parce que cet épilogue ne dure pas évidemment les deux heures que bien durent sûr les cinq incidents. Donc, on va, là encore, il y a un effet de miroir entre cet épilogue, qui est pas juste un petit truc comme ça, et c'est cet épilogue qui, à mon sens, donne la clé. Parce que tout d'un coup, ce tueur va terminer sa vie en enfer.
Fausto?
Vous avez bien désossé la structure du film, c'est difficile d'ajouter quelque chose.
Désossé, j'aurais dans ce macabre.
Non, j'ajouterais quelque chose d'assez simple, en fait, c'est que effectivement, il s'agit d'une confession, d'une conversation. Elle est double parce qu'en fait, c'est effectivement la confession de Jack à Verge et c'est aussi la confession de Lars von Trier au spectateur. Donc là où le film crée justement le vertige, c'est que au-delà de ce parcours homicide que l'on voit dans le film, on a une véritable conversation avec un metteur en scène, on a une véritable confession et à l'image de Jack, alors après le parallèle est très facile à faire, mais à l'image de Jack, parfois on ne sait pas trop où on va et on ne sait pas trop si ce qu'on nous raconte est la vérité ou autre chose.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à véritablement expertiser, afin qu'on appréhende les scènes d'horreur qui nous sont montrées, que ce soit des scènes d'accidents provoqués, des scènes d'extermination d'une famille, la mutilation d'une...
Bien sûr, mais de toute façon, c'est un vrai cinéma de la crispation. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Déjà, quelque chose à côté de la structure, mais Lars von Trier fait vraiment partie des rares metteurs en scène dont les propositions en fait sont parmi les plus existantes dans le sens les plus excitantes pardon dans le sens
existantes aussi
existantes
c'est très
excitantes.
Incarné hein.
ce que je veux dire par là c'est que ça fait partie des réalisateurs quand on rentre dans une salle pour découvrir l'un de leurs nouveaux films on ne sait pas où on met les pieds et on a à la fois un sentiment d'excitation et d'inquiétude. Mmh. Et tout le film repose effectivement sur ces sentiments-là. Et la crispation, on la ressent puisque le film est très drôle, c'est aussi une comédie. Sauf que notre façon d'appréhender justement cet humour-là crée une crispation. On ne sait pas trop où on va. Et ce sentiment-là, en fait, cette espèce de tension constante que Lars von Trier crée à travers toutes ces ruptures de ton et tous ces chocs de ton, c'est quelque chose d'aujourd'hui qu'on ne retrouve, je pense, nulle part ailleurs.
Je suis d'accord à ça près que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment dresser un point égal ou une égalité entre Jack et Lars von Trier.
Surtout pas, mais.
Oui.
Parce que sinon il ira en prison. Enfin, voilà. Il y a quand même à côté. C'est ceux qui n'aiment pas le film qui disent que c'est vraiment un autoportrait.
J'ai pas dit que c'était un autoportrait. Attention.
Non, mais il y a un point très important qui les sépare, c'est la question de l'empathie. Puisque, en fait, ça serait une proposition, encore une fois, une sorte de proposition pataphysique ou une proposition parascientifique dingue. C'est si jamais je n'avais pas d'empathie, serais-je devenu comme Jack? C'est-à-dire que Jack, ce qui le sépare en fait des artistes, c'est ce que lui dit Verge, c'est son absence d'empathie. Le fait qu'il n'ait pas d'empathie fait qu'il ne peut pas comprendre ce que c'est que l'œuvre d'art. Or, si quelque chose définit Lars von Trier de façon épouvantable dans le sens positif, insupportable, quoi, c'est que pendant des films jusqu'à The House of Jack Bolt, il a donné dans le mélo. Là, c'est le premier, quasiment le premier film depuis très 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 longtemps où il y a aucun élément de mélo. Pourquoi? Parce que le mélodrame est lié à son archi-empathie ou son espèce d'empathie de dévorante, maladive. Oui. Même ce qui fait son caractère provocateur vient d'un excès d'empathie. C'est-à-dire que la phrase qui l'a rendu persona non grata pour des années à Cannes, c'était grosso modo, j'ai de l'empathie pour Hitler. Ça, c'est l'empathie. Et c'est d'ailleurs le sujet, pour moi, c'est un des sujets de House of Jack Bolt. C'est-à-dire, c'est l'empathie pour les personnes qui ne peuvent vous faire que du mal. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on c'est là où, en fait, le film a ce truc un peu twisté, étrange. C'est que Trier disait qu'il a voulu faire un film sur les serial killers parce que il se retrouvait que beaucoup de filles qu'il avait connues avaient des livres sur les serial killers chez elles. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'elles étaient fascinées par des gens qui ne peuvent leur vouloir que du mal? Et en fait, je ne sais pas s'il se l'est dit, mais moi, je peux pas m'empêcher de me le dire. Il est pareil, Lars von Trier. Il est dans la fascination pour ce qui ne peut vouloir que lui nuire. Et c'est par rapport à ça qu'il va travailler. C'est comme un objet métaphysique en soi. Et c'est ce qui se passe avec Jack, et surtout dans le fameux quatrième incident.
Alors n'allons pas si vite. Restons au premier incident, puisque la saga, la geste de Jack va se dérouler au fil d'un certain nombre d'incidents. Donc il y a un choix chronologique. Ouais. Et on écoute donc un extrait donc de la bande son en ce qui concerne finalement ce premier incident, et on en parle après.
Oups. That was a mistake.
Mistake?
Me getting in this car with you. What was it one's mother used to say about not getting into cars with strangers?
Well, I wouldn't know what your mother said.
You might as well be a serial killer. I'm sorry, but you do kind of look like one.
Like me to drive you back to your car?
No. Take care of myself. I'm sorry. Were you offended that I called you a serial killer?
No. It's of absolutely no importance to me.
Maybe it's just the van. It's the kind one might expect to be kidnapped in, used to transport corpses. But if you really were a serial killer, I guess the easiest thing would be just to bury my body back up there by those trees. But you'd have to remember to dig 6 feet down so the foxes couldn't dig up my grave. What would I do? What would I do to keep you from getting away with it? Oh, of course. I just pick up that jack and hit you over the head with it. A jack like that could do quite a bit of damage, don't you think?
I'm not a medical examiner.
Do quite a lot of damage.
Voilà un extrait du premier incident donc de House of Jack Bolt de Lars von Trier. Alors effectivement, on est un peu tenu de donner une interprétation de ce premier incident puisqu'il est fondateur. C'est à partir de là que, je dirais, tout ce qui a été mobilisé, tout ce qui a été mis en place sans servir encore par Jack va servir. Jack, rappelons que c'est un ingénieur qui se rêve architecte. Et donc là, il y a un effet de bascule qui se crée puisqu'il est dans son van rouge qui va servir pendant tout le long du film. Et il tombe sur une autostoppeuse qui est jouée par Uma Thurman qui demande de l'aider, notamment de l'aider à manipuler un cri qui est lui aussi rouge. Donc tout est identifié dans le sens d'une espèce de rougeur maléfique. Et donc ce qui va se passer, c'est que contrairement à ce qui se produit la plupart du temps dans les films de serial killer, lui ne va pas commencer à la charmer, à l'hypnotiser, à la faire entrer dans un discours dans lequel elle va sombrer, mais c'est le contraire qui va se passer. C'est que lui ne dit rien, il est muré dans une espèce de silence morose en pilotant son van, et c'est elle qui tient un discours, qui lui tient un discours et qui le configure, qui le formate, pour employer un mot d'aujourd'hui, qui le formate comme serial killer. Et moi, mon idée, c'est que c'est une figure démoniaque et que c'est pour lui l'entrée vraiment en satanisme et l'entrée dans son ascèse infernale. C'est qu'il rencontre le mal, il rencontre l'image du démon et le démon lui donne sa feuille de route. C'est-à-dire arrive à trouver les arguments rhétoriques. Et là, effectivement, moi, je suis en plein Bernanos et on ne peut pas ne pas penser à Sous le soleil de Satan. Mais quoi, que dans Sous le soleil de Satan, ça échoue. Mais là, ça réussit. C'est-à-dire que dans cette espèce de capacité industrieuse, technologique, artisanale que représente Jack, mais qui tourne pour l'instant à vide, eh bien, le diable va lui fournir un carburant qui est le mal. Et à partir de là, va se mettre en place cette espèce de mécanique qui fait que tout ce que lui a déjà construit, et notamment l'obsession qu'il a de bâtir une maison qu'il n'arrive jamais à construire, eh bien, il va tenter. Il semblerait que le mal soit pour lui l'espèce de discipline intellectuelle qui lui permette enfin d'arriver à quelque chose, à créer une structure. Voilà, c'est un peu la vision que j'en ai.
Super François, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais il y a un point important qui va dans ton sens complètement. C'est le fait que Jack est d'abord dans une logique d'échec. C'est-à-dire que c'est tout le film tient là-dessus, sur le fait que c'est un ingénieur qui aurait voulu être architecte et que ce truc-là, cette blessure narcissique, mais c'est quasiment le seul élément psychologique qu'on ait du personnage, puisque on se refuse complètement à ce que font d'habitude les films sur les tueurs, qui est de montrer son passé, ses parents, rapport à sa mère, rapport à son père, première petite amie, etc. Alors là, c'est évacué. On a un élément autour duquel le film tourne, qui est j'aurais voulu être architecte et je ne suis qu'un ingénieur. Et ça va jusqu'à l'obséder, jusqu'à le fait qu'il en parle à une de ses victimes, que c'est vraiment son moteur. Et à partir de cet élément-là, en fait, première victime, ou le diable, si on suit ton interprétation, va tourner, en fait, fondamentalement, lui donne la feuille de route, mais surtout cherche son point faible. Et ce point faible, comme grosso modo, elle lui dit, vous êtes beaucoup trop lâche pour ça, grosso modo. Elle va l'avoir sur l'orgueil, et sur le truc de l'orgueil, et son orgueil, sa blessure narcissique, fait qu'en fait, il va se trouver cette espèce de vocation qui va compenser pour lui tout le reste, quoi.
Philippe? Oui, alors qui va compenser, mais sans y arriver, parce que sa maison, il va continuer. C'est-à-dire qu'on apprend, quand il se lance dans ce premier meurtre, qu'il est déjà en échec. C'est-à-dire que il n'a pas pu être architecte comme il le voulait parce que sa mère l'a empêché, lui a dit qu'il fallait être ingénieur. Et lui, avec un héritage, il explique qu'avec l'argent d'un héritage, il a acheté un terrain et il va construire cette fameuse maison dont parle le titre. Et il s'aperçoit qu'en étant ingénieur, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il peut... tout le film, c'est ça. Il va assembler des blocs, comme pourrait le faire un ingénieur. Mais sauf que il faut autre chose pour construire une maison. C'est pas que faire un Lego. Il faut avoir le sens de l'architecture, notamment pour que les bases puissent tenir et qu'il y ait cette espèce de fondation et qu'il illustre. Et du coup, finalement, l'idée c'est de construire une maison presque de cadavre. Ça va être ça le parcours.
La mort va lui permettre justement d'édifier cette espèce de demeure qu'il veut être la Seine Fausto.
Ouais, moi j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Pacôme, concernant justement le pas de côté que Lars von Trier fait par rapport au schéma classique du film de tueur en série. C'est quelque chose qu'il commente directement dans le film, à travers justement le personnage de Matterman, qui pousse un peu Jack dans ses derniers retranchements, en lui disant de toute façon vous n'avez pas l'air d'être un tueur en série, et si vous en étiez un, vous enterreriez probablement juste en face, mais les flics découvriraient mon corps, etc. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que y a vraiment une sorte de déconstruction justement du film de serial killer américain. Dans les bonus, Lars von Trier revient sur le caractère anormalement prévisible des personnages justement dans le cinéma américain, et on voit que lui repousse constamment en fait l'échéance du meurtre dans ce premier incident, c'est-à-dire que c'est extrêmement long, il y a un aller-retour, puis deux, et surtout il joue avec l'empathie comme jamais, c'est-à-dire que c'est clairement la victime qu'on déteste dès ses premières secondes d'apparition à l'écran.
Et en plus c'est Uma Thurman. Lui faire détester Uma Thurman, voilà. C'est quand même quelque chose.
Donc c'est assez drôle. Matt Dillon est un acteur hollywoodien bien évidemment, mais de prendre une figure hollywoodienne, actrice classique, blonde, pour jouer justement sur cette crispation et nous donner envie de la baffer, sauf que la baffe qu'on a envie de donner à Uma Thurman, elle est traduite par un homicide du côté de Jack.
Tout à fait.
Don't the police officers in your story seem exceptionally naive? Is that the point?
No. But here it comes, the point that is.
I can hardly wait.
The great rain. It washed away the long track from my escape. Now, I don't consider myself a decidedly devoted man of faith, which of course is a totally crazy thing to say considering our present situation, but I must admit, I experienced the rain, the fiercest I have ever seen, as a kind of a blessing. And the murder as a kind of liberation. I felt I had a higher protector.
And in reality, you were just a terrifying, perverted Satan. But did you understand, or even better, did you accept the connection to your own personality? that you yourself were a psychopath.
Well, I'm not stupid.
That's rather unusual. The psychopath will never accept his own diagnosis.
But I did. For instance, the psychopath's lack of empathy. I went to great lengths to fake normal empathy in order to hide amongst the masses.
Smile.
Oh, yes, 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 yes. Disappointed. Very, very disappointed.
Voilà, tu as un extrait de Yahuza Jack Bill de Lars von Trier, notre sujet ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors, on entend le piano de Gainsbourg de Bach. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, là, cette espèce de désir d'une structure absolue, d'une structure pure, qui soit une sorte de demeure définitive dans laquelle Jack pourrait habiter, parce que véritablement c'est ça, c'est la quête d'une sorte de lieu propre qu'il aurait lui-même créé et qui serait un lieu définitif. Donc il cherche une sorte de structure définitive. Eh bien, elle est symbolisée au travers du film par toujours à peu près le même extrait d'archives où on voit Glenn Gould en train de répéter toujours de manière permanente la même cellule dont je prends des variations Goldberg de Bach, mais n'y arrivant pas, puisqu'on sait bien que à l'image de Jack, Gould était en quête d'une sorte de perfection interprétative qui a toujours reculé devant lui, ou quasiment. Et donc c'est un peu ça, cette idée Bach joue là sous la forme qui est la polyphonie absolue, sous la forme d'image de la perfection. Ce que cherche Jack, c'est non pas à assouvir des besoins, à se vider véritablement d'une pulsion mauvaise qui se remplirait disons immédiatement et puis qui amènerait un autre meurtre. C'est au contraire la quête d'une sorte de structure du mal. Alors c'est pour ça que j'ai cité la phrase de Bismonds au début, l'au-delà du mal ne s'atteint pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un au-delà du mal qui me libérerait de l'en bas du mal? C'est-à-dire, qui nous libérerait du mal tel que nous l'éprouvons sur le simple fait d'être un homme. Donc, est-ce qu'il y a une transcendance mauvaise qui pourrait nous libérer du mal, d'une certaine façon? Et on va voir au fil de tout cela, parce que c'est la construction du film le montre bien. Il y a d'un côté Glenn Gould qui n'arrive pas et qui rejoue en permanence cette espèce de petite cellule de Bach, comme si on cherchait la forme vraiment définitive. Et c'est pareil pour Jack avec sa maison. Alors on le voit faire des maquettes dans une espèce d'atelier très propre, d'une propreté quasi pathologique, construire une maison qui est...
Sur son terrain.
Enfin, sur son terrain, qui en plus c'est ça qui est important, c'est que c'est une sorte d'appropriation, d'une volonté d'appropriation. Donc construire quelque chose qui est toujours à refaire. Et tout cela s'intégrant et se coordonnant avec donc des crimes qui sont de plus en plus effroyables.
Oui, mais sauf que la grande différence, c'est que Glenn Gould a vraiment joué Bach, alors que lui n'a pas construit de maison.
Voilà,
et c'est ce que lui rappelle avec humour et crispation. J'aimais bien le mot de Fausto, de crispation. Verge, Bruno Gans, qui est toujours là en lui disant, mais enfin, vous n'êtes pas Glenn Gould, mon ami. Vous n'êtes pas un artiste. C'est-à-dire que lui se rêve évidemment artiste, et l'autre lui dit, vous n'êtes qu'un technicien, vous n'êtes qu'un ingénieur en quelque sorte du crime, alors que lui se voudrait évidemment un architecte du rêve, du mal et du crime. Et le film creuse beaucoup cette ambiguïté-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que après ce premier meurtre, ce premier incident dont vous parliez, où c'est presque il est poussé à bout et donc il se lâche, il devient pas pour autant le super serial killer, parce que le deuxième incident, qui est vraiment le deuxième meurtre, il sait vraiment pas comment y faire. Dans les bonus,
Patrick
parle de dépucelage, et après il essaye de faire tout seul. Après que la grande dame l'ait dépucelé, oui. Il essaye de se débrouiller tout seul et il sait même pas ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à la moitié du travail d'étranglement de sa victime.
Le premier meurtre, c'est une dame chez qui il s'introduit comme étant une sorte d'agent d'assurance.
Voilà. Au début, il dit qu'il est la police, il voit que ça marche pas, il rebondit, c'est une espèce de rhétorique. Ce qui est fou, c'est qu'il n'a rien préparé. Il n'a rien préparé comme scénario et une dame qui est pas spécialement un phénix, à chaque fois, réussit à lui faire échec dans la rhétorique. C'est dire s'il est fait. faible. Mais bon, il finit quand même par réussir à se débrouiller. Et au milieu du truc, il s'arrête en disant « Comment je peux réparer ? Je vous offre une camomille, un peu de beignet. » Et puis, quand elle a l'air de reprendre du poil de la bête, oups, il y retourne. Et après, il dit avec beaucoup de contentement que ça va de mieux en mieux. Et c'est ça qui est très troublant pour le spectateur. C'est-à-dire que on est dans un film de serial killer où il n'y a pas d'enquêteur. La police est toujours ridiculisée. Ils viennent toujours pour autre chose que pour les crimes, comme si ces crimes n'existaient pas. Il n'y a que le journal local qui va publier les courriers, parce que lui, il s'est autoproclamé Mr. Sophistication. Il n'y a bien que lui qui pense qu'il est sophistiqué. Et voilà. Et donc, à partir de là, c'est ce qui est très troublant pour le spectateur, parce qu'il faut quand même le dire. Parce que là, nous, on parle du film. On est tous les quatre. On adore ça. Tout va très bien. Mais le film fait grincer plus de dedans. Je ne peux pas dire que ce soit un film pour tout le monde. Et justement pour ça, parce qu'il n'y a pas le contrepoint. C'est-à-dire que quand vous regardez Le Silence des Agneaux, vous avez Jodie Foster et vous savez dans quel camp vous êtes. Et vous pouvez vous délecter d'Anthony Hopkins parce que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes avec Jodie Foster. Là, vous êtes tout seul avec Matt Dillon.
Struck me like lightning from a clear sky. I couldn't resist running that little old lady over. It made my already rather daring plan of bringing the first body back to the scene of the murder in order to take some more inspired photos a great deal more dangerous. I now had a severely hemorrhaging body and another body in a bizarre frozen position on my hands.
God damn it!
Could you elaborate a little on why the old lady had to die?
I can't explain it all, but perhaps I can describe it as the kind of blood frenzy an Ermine experiences in a henhouse. Do you know Blake's poems? About the lamb and the tiger?
I do know Blake superficially. But I'm afraid I won't escape a comprehensive tutorial.
God created both the lamb and the tiger. The lamb represents innocence, and the tiger represents savagery. Both parts are perfect and necessary. The tiger lives on blood and murder, kills the lamb. And that is also the artist's nature.
You read Blake like the devil reads the Bible. After all, the poor lamb didn't ask to die in order to become even the greatest art.
Voilà, le tigre et l'agneau, Fausto, on peut évoquer justement la série des incidents qui marque la progression, donc, dans la, entre guillemets, de la carrière et de l'ascèse, parce que c'est une ascèse à l'envers, mais c'est une ascèse quand même, de Jack.
Ça fait partie effectivement des grandes surprises du film, puisque après le premier incident, on se demande un petit peu comment Jack va s'y prendre. Et on est de plus en plus surpris, mais je voulais rebondir justement sur ce que vous disiez concernant Elliot Gould et puis cette idée de répétition.
Glenn Gould.
Oh là là.
C'est autre chose.
Une déformation cinéphilique, pardon. Concernant Glenn Gould, justement, et cette idée de répétition, c'est quelque chose qu'on ressent dans le montage de Lars von Trier, justement, dès le premier meurtre, dès le premier incident, avec ce premier coup de cric, asséné à Matterman, qu'on revoit, je crois, trois fois. Donc, déjà, dès le début, il y a cette idée de répétition du geste, mais à travers le montage, donc à travers la vision du metteur en scène. Et on retrouve ça d'une autre manière, lors du second incident, où là, on a une sorte de découpage homicide, c'est-à-dire que effectivement Jack est obligé de s'y reprendre une seconde fois avec un autre outil, je ne dévoilerai pas lequel, pour pouvoir tuer sa victime. Et on a cette distorsion du temps quand il repense à tous les indices justement qu'il a laissés sur place. Donc là aussi, il y a encore cette idée de répétition et de correction, puisque c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de son meurtre.
Voilà,
et on le voit justement dans le deuxième incident, il ne cesse de revenir sur les lieux pour peaufiner et justement affiner son œuvre.
Pas cool.
Un petit élément encore sur Glenn Gould. C'est intéressant, là on vient d'entendre aussi Fame de David Bowie passer rapidement. C'est ça, on peut dire c'est un point qui fait se rencontrer le personnage de Jack et Lars von Trier, ou c'est un endroit où Lars von Trier met un peu de lui-même, c'est que autant Glenn Gould représente l'art dans le film pour Jack, autant la présence obsédante du morceau de David Bowie Fame renvoie à Lars von Trier dont Bowie est le Glenn Gould. Et ça, ça a créé une espèce de lien entre ce film et le reste de la cinématographie de Trier, parce que Bowie est quelqu'un qui revient plusieurs fois dans la cinématographie de Trier. Young Americans du même album était en générique de fin de Dogville et de Manderley. On retrouve aussi juste un détail, mais qui à mon avis était quand même assez troublant, lorsque le tournage allait commencer du film, Lars von Trier a fait un tout petit film qu'il allait diffuser sur les réseaux sociaux. Petit film où il annonçait qu'il allait rentrer en tournage de House of Jack Built, et il terminait en disant this ain't rock and roll, this is genocide, qui est la phrase qui ouvre Diamond Dogs, David Bowie. Il se tournait et là il avait qui pendait à l'arrière de sa tête le masque de yeux que Bowie a dans les derniers clips qu'il a fait, Black Star et Lazarus. Ça, c'était vraiment un lien, c'est très rare qu'il fasse un espèce de lien aussi net, une citation on va dire aussi directe et aussi importante. Et c'est le premier film que fait Trier, on va dire, depuis la mort de Bowie, c'est-à-dire depuis la mort de son maître. Et ce qui donne aussi à The House of Jack Built une dimension non seulement crépusculaire, mais aussi de démarrage. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Trier avait terminé un cycle complet avec Nymphomaniac, qui d'une certaine façon revenait sur quasiment, on va dire, tous les lieux de ses crimes précédents, enfin, retraverser tous ses films. Et dans celui-là, on retourne à une énergie extrêmement brutale, extrêmement violente, quelque chose de très rock'n'roll, quand on voit le film, beaucoup plus que Nymphomaniac, en tout cas, et avec cet effet qui est amplifié par la répétition, par le caractère brut du décoffrage de tous les éléments qui viennent rythmer les discussions et les digressions, c'est-à-dire des JPEG de tableaux, des JPEG d'images, des petits bouts d'extraits de trucs trouvés sur YouTube quasiment en illustration, des choses très 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 simples, et surtout le thème du film, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est troublant, c'est que le serial killer était le sujet du premier film de Lars von Trier, dans lequel on entendait dans lequel on entendait, bon, on le sait tous, quoi, mais pour l'auditeur, peut-être, sera intéressé de l'entendre, on entendait la berceuse The House of Jack Built, qui donne le titre de ce film.
C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression presque d'une renaissance. Ouais. Alors, on a compté, c'est le 13e film de Jack, et dans le film, dans le 3e incident, la mère de famille lui demande un chiffre qu'elle aime, elle dit 12. Il dit, oh, un très bon chiffre, non,
justement,
12.
Parlons des incidents. Ben, chaque incident est une mise à mort particulière. Il y a une mise à mort par percussion, si vous voulez dire un coup, c'est Cain et Abel, c'est le premier coup au début, le premier incident. Le deuxième, c'est une strangulation. Après, c'est une extermination au fusil d'une mère et de ses deux enfants.
Le viseur, là encore, le viseur du cinéaste.
Avec un viseur. Ouais, après, c'est une mutilation au couteau. Donc, il y a une espèce de côté polytechnique. Le personnage cherche dans tous les sens pour arriver à trouver.
Jusqu'au cinquième incident, qui est alors c'est presque Voyage au bout de l'enfer, une balle, une seule, mais pas pour tuer un cerf, mais pour tuer toute une rangée de personnages alignés les uns, et
les
donc
crânes
il faut absolument
sont alignés,
les crânes soient alignés avec une balle blindée
sur ce plan,
une balle pour les tuer tous. C'est presque le Seigneur des Anneaux.
Il y a un élément extrêmement important, c'est que pour arriver à faire le point avec Samir, donc son fusil à lunettes, il est obligé d'ouvrir la porte d'une espèce de salle,
d'un cabinet interdit qui lui était interdit.
Voilà, ça veut dire que pour commettre le crime absolu, il faut franchir une limite qui est la limite vers l'absolu. Donc il ouvre la porte du cabinet interdit, il recule son fusil, donc il peut commettre son crime, qui est le crime parfait, mais pas au sens qu'on ne découvrira pas l'auteur, mais au sens de la perfection du geste. Mmh. Et c'est dans cette espèce de salle interdite qu'il y a l'accès à l'enfer.
Mmh. Voilà, et la révélation de ce personnage de Bruno Gans. Bruno Gans, dont c'est le dernier rôle de son vivant, il nous doit encore un film, puisqu'il a tourné dans le film de Terrence Malick, Ragagund. Si Terrence Malick le coupe pas au montage, on verra encore un film avec Bruno Gans, mais c'est intéressant que l'homme qui a été immortalisé en gros pour deux rôles, enfin moi j'ai adoré L'Ami Américain et tout ça, mais ça c'est de la cinéphilie, pour le plus grand public, on va dire mais quand même un peu cinéphile, on va dire que Bruno Gans c'est à la fois Hitler dans La Chute et c'est l'Ange des Ailes du Désir. Absolument. c'est les deux figures, et là ça devient Virgile et La Descente aux Enfers, un rôle qui répond à la fois à Hitler dont Jack parle beaucoup, et à la fois à l'Ange des Ailes du Désir, qui se fait homme pour avoir de l'empathie, hein, pour avoir de l'empathie pour la situation des hommes, par amour, etc. Et il y a une certaine, il y a une certaine empathie dans la démarche de Verge. C'est ça qui est assez troublant. Bah, et avec une volonté presque de relire le film en disant, tu n'as pas vu, j'étais là tout le temps. Et alors là, on revoit des scènes du film où qui incruste, mais là, vous pouvez regarder votre Blu-ray, votre DVD. Il n'était pas dans ces séquences-là.
That's how deep the deepest hell goes. It's actually not here I'm to deliver you. However improbable that may sound, but a couple of circles higher up. I took you down here as a kind of a favor. Because you did, after all, give me a little to chew on with your story, and I understood that you wanted to see it all. When you're done looking, we'll turn back.
Where does that path lead? On the other side.
It leads out of hell and up. As you can see, there was once a bridge, but that was before my time.
Isn't it possible to climb all the way around? This way? Make it over to the other side?
Quite a few have tried, but I have to say, never successfully. I wouldn't recommend it, but the choice is entirely yours.
Voilà la scène. Alors là, du coup, les deux personnages sont aux enfers après être passés par la petite pièce interdite, à l'intérieur duquel Jack va construire ce qui pourrait être sa vraie demeure, c'est-à-dire une sorte de bicoque, de cabane, construite avec les corps rigidifiés et parce qu'entreposés dans une chambre froide de toutes ses victimes. Donc justement, son œuvre de tueur crée une sorte de maison comme ça dans laquelle il espère habiter, mais non. Puisqu'il disparaît dans le trou des enfers, et là encore, dans le trou infernal, et même dans sa visite des enfers, il échouera à atteindre le point ultime, puisque au-delà de le pont, un pont est brisé, et il ne pourra pas accéder à cette espèce d'escalier dont Bruno Gantz lui dit, ça mène là-haut. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Y a-t-il un là-haut d'en bas ? On ne sait pas. Pas cool.
Puis surtout, il y a dans cette quête à base, c'est-à-dire dans le voyage en enfer qui représente ce incroyable épilogue, il y a le moment émotionnel du film, puisqu'il y a un moment extraordinaire. Parmi toutes les images qui traversent, qui sont souvent des images avec une référence picturale de la croix Bosch, il y a un moment où on retrouve en fait les images, les seules images qu'on connaît de son passé, les seules images de son enfance, qui sont les faucheurs dans la nature. Soudain, il revoit ces images-là et on a une goutte, une larme qui coule de son œil. Et je me souviens, quand j'étais au cinéma, la première fois que j'ai vu le film, c'est le moment où j'ai eu, moi aussi, j'ai commencé à pleurer, quoi. C'est-à-dire que c'est le Trier à qui on a reproché, depuis Breaking the Waves, de faire couler les larmes de son spectateur de force. Il se retient bien durant tout le film, quoi. Mais quand même, à la dernière minute, il peut pas s'en empêcher. Il se dit, putain, merde. Il y a le moment émotionnel et qui compense d'une certaine façon la crispation de tout le reste. C'est-à-dire que c'est aussi une délivrance pour le spectateur.
Deus Ex Jack Built, donc de Lars von Trier, c'est en Blu-ray aux éditions Potemkin. On termine avec le corps et le fouet, ça peut aussi penser à un autre film de Lars von Trier. Mais là, c'est celui de Mario Bava.
Oui, de 1963, qui ressort dans une très belle copie chez ESC. Une édition avec des suppléments et avec notamment le commentaire audio de Tim Lucas, qui est un grand... vous avez l'âme de Video Watchdog, qui est vraiment... l'auteur d'une somme sur Bava, qui est absolument introuvable aujourd'hui.
Et oui, qui atteint des prix...
qui défie toute concurrence. Et dont il parle et dont on peut profiter un peu, puisque le commentaire audio est sous-titré. Et c'est très intéressant de voir ce film qui est un film faussement facile. Rappelons, donc, c'est un film de 1963 avec Christopher Lee et Dali Alavi. Alors au début du film, Christopher Lee, alors c'est l'aspiration gothique de Bava, on est au 19e siècle, et Christopher Lee revient dans le château de sa famille où l'attend son père et son frère, et en fait il a été déshérité car il a provoqué la mort d'une servante qu'il avait séduite bassement avant de l'abandonner, donc il a été chassé. Son frère a hérité de tout, y compris de sa petite amie, qui est jouée par Dahlia Lavy. Mais sauf qu'évidemment, elle a épousé le frère Fadassou, mais évidemment, quand arrive Christopher Lee, elle a vécu avec lui des choses, semble-t-il, assez... Voilà, et tout d'un coup, il va y avoir l'incarnation du titre, Le corps et le fouet. Il se retrouve sur la plage, abandonné, et il lui rappelle qu'elle aime ça, le fouet. Et à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait dire, ça va être tout le film, va être sur ce rapport, etc. Pas du tout, pas du tout. Lui meurt, le personnage de Christopher Lee meurt, et elle est retrouvée sur la plage. Et donc, à partir de là, on se dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous raconter maintenant ? Eh bien, justement, ce qu'il va nous raconter, c'est comment l'interrogation sur la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort ? Est-ce qu'il est réellement en enfer ? Parce qu'elle va continuer à avoir cette relation avec lui. Alors, est-ce que c'est du fantastique ? Est-ce que c'est un mort qui revient, l'esprit qui revient ? Ou est-ce que c'est son délire à elle ? Il y a évidemment des incidents, là encore, mais presque au sens de Lars von Trier, qui se succède dans le château, et la mise en scène de Bava, c'est moi ce qui me plaît dans le film, au-delà du sujet, au-delà de tout ce qu'on peut dire, même si c'est une exploration SM très poussée pour le cinéma de 63. Il faut bien comprendre que le film a été censuré dans de nombreux pays, parce qu'une femme qui se faisait fouetter, qui trouvait ça finalement érotique et bien, je pense que c'était beaucoup trop choquant en 1963, et je suis pas sûr que ça ne soit pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon, il y a la patine du temps, on est dans une niche cinéphile mauvais genre, donc tout va très bien. Mais le film a ce côté corrosif. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le fantastique est amené par la mise en scène dans ce film. C'est-à-dire que c'est constamment la caméra qui va jeter des espèces de couleurs au visage des spectateurs. Il y a un côté Argento avant l'heure et qui vient défier les règles de la narration. Scorsese a dit de ce film, voilà un film de jeunes filles en nuisette dans les couloirs, mais il se passe rien. C'est-à-dire qu'habituellement, les filles en nuisette la nuit dans les couloirs, elles sont poursuivies par des fantômes, et puis des loups-garous, et elles se font assassiner vite fait, bien fait. Là, non, je veux dire, c'est une espèce d'étirement du temps pour amener et cultiver une sorte de vertige à la fois érotique et métaphysique. Et vraiment dans le rôle, évidemment, Christopher Lee, absolument extraordinaire dans ce rôle de séducteur d'outre-tombe.
Une scène de flagellation.
Bava joue sur son côté post-Dracula, et Dahlia Lavy, qui est actrice israélienne magnifique, et je pense que c'est le film où elle est la plus belle de toute sa filmographie, et on sent que Christopher Lee a un plaisir fou à l'embrasser, à avoir des scènes sensuelles avec elle. Je crois que la femme de Christopher Lee était sur le plateau et était pas du tout contente de ces histoires, Fausto.
J'imagine, Fausto.
Bah non, mais Philippe en parle parfaitement. C'est vrai que la grande force du cinéma de Bava, dont c'est probablement l'un des plus beaux films, alors on a l'embarras du choix avec Mario Bava, mais en tout cas celui-ci fait partie des meilleurs. C'est aussi peut-être l'un des meilleurs rôles de Christopher Lee, je trouve, en tout cas l'un des plus surprenants
avec The Wicker Man.
Voilà, mais la grande force du cinéma de Bava, c'est d'arriver justement à traduire picturalement en fait des univers mentaux. C'est exactement ce qu'il fait en fait dans Le corps et le fouet, qui est une excellente répétition avant la grande rétrospective Bava cet été à la Cinémathèque française. Donc.
Et on peut lire, alors, parce qu'il y a un livre formidable dont on va pas parler à mauvais genre, publié à Tour Verte, là, publié cet automne, Mario Bava, un désir d'ambiguïté d'Alberto Pezzotta, qui est traduit en français par nos amis Edgar Balzer, qui va sortir Un geste franco incessamment sous peu. Et c'est très très passionnant, je trouve que c'est le meilleur livre qu'on peut lire en français sur Bava, et c'est très très intéressant. Donc on se prépare pour cet été la rétrospective à la Cinémathèque.
Merci messieurs, je rappelle les sujets dont nous avons parlé ce soir. Donc bien évidemment, confrontez-vous, il le faut, au film de Lars von Trier, The House That Jack Built, interdit aux moins de 16 ans, mais véritablement une exploration méthodique,
à Cannes,
ascétique
et mystique
du mal. Quelqu'un
m'a dit, j'ai honte d'avoir aimé ce film.
Eh bien,
est-ce,
voilà.
que, est-ce que c'est
allez,
pas
allez au devant.
Est-ce que c'est pas voluptueux?
Allez au devant de votre propre honte en regardant ce film absolument extraordinaire. Nous avons donc au cœur de l'émission ce soir.
Et puis chez ESC, voilà. Le corps et le fouet, le film de Mario Bava.
Et on rappelle l'éditeur du livre sur Mario Bava.
La Tour Verte, Mario Bava, à désir d'ambiguïté, Alberto Pezzotta, traduction d'Edgar Balzer.
Merci messieurs, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Podré, Bernard Lagnel, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Paco Mtielman, Fausto Fazulo et François Angelier. Je vous remercie d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain pour évoquer les 80 ans de Batman. Et d'ici là, bonne nuit à tous.